France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1981, Bernard Hinault remportait Paris-Roubaix, 25 ans après la dernière victoire d'un coureur français, Louison Bobet, breton comme lui. Paris-Roubaix, sous le soleil rarement, sous la pluie souvent, ses pavés, ses crevaisons, ses chutes. Une course que Bernard Hinault n'aimait pas avant de l'avoir gagnée et pas davantage après ce succès, remporté avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde sur les épaules, quelques mois avant sa troisième victoire dans le Tour de France. Ce Paris-Roubaix de 1981, avec Claude Giovanetti, l'amoureux du cyclisme, breton lui aussi, Yann Parentoen, en proposait une magnifique version radiophonique aux auditeurs de France Culture, quelque temps après le triomphe de celui que l'on surnommait le blaireau. Une magnifique plongée dans l'enfer du Nord, au cœur de la course, dans laquelle on entendait Bernard Hinault la veille du départ et aussi, à froid, après sa victoire arrachée au sprint en dépit de deux crevaisons et d'une chute. Une émission qui devrait convaincre ceux qui en doutent qu'un grand champion cycliste court aussi avec sa tête et qui rappellera aux amoureux de la petite reine qui en ont l'âge l'un des grands moments de la carrière de Bernard Hinault et l'une des plus belles éditions de Paris-Roubaix. Ils y retrouveront, entre autres et en désordre, les voix de Cyril Guimard, Maurice Champion, Roland Mignot, Jean-Michel Leliot, Jean-Paul Brouchon, Philippe Brunel, Gérard Porte et beaucoup d'autres voix, celles des coéquipiers de Hinault, des mécanos et d'une foule de journalistes saluant dans toutes les langues l'exploit du natif d'Ifignac. Une émission suivie d'un court portrait du champion dessiné par le caricaturiste du journal L'Équipe. Atelier de création radiophonique, Yvon, Maurice et les autres, et Alexandre, ou la victoire de Bernard Hinault dans Paris-Roubaix 1981. Première diffusion le 11 juillet 1982 sur France Culture.
Les Tours de France, quelle élégance, quand on commence à pédaler. Les Tours de France, quelle manigance, quand le dernier est arrivé.
ACR, Atelier de création radiophonique. Yvon, Maurice et les autres. Et Alexandre. Ou la victoire de Bernard Hinault dans Paris-Roubaix 81. Par Yann Parentoen, Claude Giovanetti. Étape. Trait d'un portrait. Fragment d'une émission en chantier consacrée au portrait sonore de Bernard Hinault.
Ouest France, le 13 avril 81.
Le Roubaix, cocorico. Un Français vient enfin de gagner Paris-Roubaix.
Bernard Hinault, maître des pavés et de la piste.
25 ans après Louison Bobet. Comme ce dernier, il est également breton et champion du monde. Hinault s'est également imposé au sprint. Mais nul n'a pour autant contesté sa victoire.
Texte de Roger Glémé.
Blanac, aussitôt après l'arrivée, est allé au pied du podium. Il a cherché le regard de Bernard Hinault, a souri en levant la main droite à la manière des.
Le télégramme de Brest, Paris-Roubaix, Paris gagné,
Roubaix.
Pierre Lebars.
Quand il pénétra en seconde position sur la piste rose, un grand cri monta dans la foule. Un cri long, soutenu, qui n'en finissait plus et qui allait même s'amplifiant. Inou, Inou, Inou. La foule vibrait de plaisir et aussi d'impatience.
L'humanité, Abel Michéa.
Louison Bobet, dernier Français à avoir épinglé son nom au livre d'or de Paris-Roubaix. T'es là, sur le bord de la piste.
25 ans après votre victoire, première victoire d'un Français, et vous suivez ce Paris-Roubaix.
Et d'un Breton, je m'excuse. Je suis Paris-Roubaix, oui, je suis très ému, très fatigué.
25 ans plus tard, un autre Français, enfin, un autre Breton récidivait. Et de quelle magistrale façon on pourrait écrire que ce fut bien le Paris-Roubaix de Bernard Hinault, ou le sien, hélas, pour le trop téméraire du colossal.
Yvon, Maurice, et les autres, et Alexandre. Ou la victoire de Bernard Hinault dans Paris-Roubaix 81. Par Claude Giovannetti, Yann Parentoan.
Roger de Vlaming is van vluchten na zijn pech achtervolger geworden. Bernard Hinault, die de ongelukkige Belg was voorbijgesneld, wacht hem op om samen naar Mozeer, De Meijer en Duclos-Lazalle toe te rijden.
Wilfried Meert.
Roger de Vlaming est devenu poursuiteur après ses ennuis mécaniques. Bernard Hinault, qui avait dépassé le Belge malheureux, l'attend pour rouler ensemble vers Mozeer, De Meijer et Duclos-Lazalle.
Oh là, il n'y a pas de problème, ouais. Je crois que... On s'en rappelle assez facilement. La première photo, c'est le moment où Roger de Vlaming a crevé. Moi, je reviens donc sur les autres.
C'est un grand ami, Bernard. À Paris-Roubaix, quand je suis crevé, il attend à moi. Il a dit, mon pote, on va faire tous les deux. C'est mieux en deux que seul.
Et la première chose que je fais, c'est de l'attendre. Et il est toujours plus facile de rentrer à deux, plus qu'une seule personne.
C'est un bon garçon, pour moi.
Roger de Vlaming.
Grand concerto d'assi nell'inferno del nord. Bruno Raschi.
Roubaix.
Une émotion palpable semblait coller aux hommes et aux choses. Le vainqueur, plus qu'un homme à bicyclette, est apparu comme un prophète barbouillé de boue.
Assumono sembianze vagamente drammatiche, sicuramente monumentali.
Les triomphes du cyclisme parfois prennent des apparences vaguement dramatiques, sûrement grandioses. La Gazzetta dello Sport, 13 aprile 1981, Milano.
Er heeft zich een opstopping voorgedaan met wagens en gevallen motorrijders. Bernard Hinault heeft geen moment geaarzeld. Fiets op de schouders, rent hij achter het publiek omheen de hindernis. René Lombard. Il y a eu un embouteillage avec des voitures et des motards qui sont tombés. Bernard Hinault n'a pas hésité. Il a pris le vélo sur ses épaules et court derrière le public pour éviter l'embouteillage.
Et la deuxième, c'est un passage très difficile où il n'y a pas la possibilité de passer vraiment sur la route, étant donné qu'il y a beaucoup de voitures. Et pour moi, le seul moyen de m'en sortir, c'est de passer derrière les spectateurs, étant donné que c'est très serré. Et à ce moment-là, je perds pensée, il n'y a pas de terrain. Mais il y a des gens qui sont un peu surpris quand on regarde la photo, parce que ce n'est pas dans les habitudes des coureurs de passer derrière les spectateurs. Ça, c'est 35 km de l'arrivée. C'est-à-dire en plein boom, quoi. Il y a vraiment les pavés.
Quand on est entré dans l'enfer, ils étaient propres parce qu'on était les premiers à passer. Tu comprends? On est tombé, ils étaient effroyablement glissants. Et bien, c'était rose comme tout Manac. C'est d'un merveilleux rose avec le vert. Est-ce que tu es content quand même?
Que c'est... Tu n'y croyais pas, là?
Oh non. Moi, j'ai commencé à y croire. 20 km, il y a eu un suspense extraordinaire. Parce que au moment où il a découvert lui-même qu'il était le plus fort, peut-être à 100 km de l'arrivée, alors on a commencé à paniquer.
La voie des sports,
c'est vrai, il sait.
La voie du Nord, Bernard Hinault au paradis.
Oui.
René de Ruy.
Nous sommes devant notre machine à écrire, un peu perdu,
comme celui qui, ayant tellement souhaité quelque chose, se trouve déconcerté lorsque son vœu est enfin exaucé. René de Ruyck. Il y a toujours ces possibilités de pouvoir vaincre. Mais je crois qu'il faut repartir un peu en arrière. Dans l'hiver qui précédait cette saison 1981, Cyril Guimard, moi et champion, par petite touche, avait essayé de lui faire comprendre que Paris-Roubaix était à sa portée.
Il a les moyens athlétiques de pouvoir gagner Paris-Roubaix, mais se pose, je dirais, deux problèmes. Le premier, il n'apprécie pas tellement, et je crois qu'après le Tour de France, il apprécie peut-être encore moins. D'autre part, et peut-être d'ailleurs parce qu'il n'apprécie pas, il n'est pas spécialement adroit sur ces secteurs pavés. Donc à partir de ce moment-là, Paris-Roubaix risque peut-être de rester d'ailleurs tout au long de sa carrière un objectif tout à fait aléatoire. Bon, un jour ou l'autre, peut-être arrivera-t-il à remporter Paris-Roubaix, mais là je crois qu'il faudrait qu'il y ait un concours des circonstances.
Bon, je ne sais pas si c'était pas Saint-Malo, ça.
Cyril Guimard.
Ce reportage-là était donc en 78, je pense. 79. Je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est que bon, ce que j'ai dit à ce moment-là est toujours vrai aujourd'hui, sauf qu'il l'a gagné. Moi, je disais entre autres qu'il était possible qu'il puisse le gagner, qu'il fallait un certain nombre de circonstances. Et parmi ces circonstances, l'une était particulièrement importante, c'était la motivation. Et cette motivation, disons qu'elle est venue un petit peu chaque jour par la pression constante de tout son environnement.
Moi et champion.
Je répondrai en tant que nordiste que Paris-Roubaix est ma course. Je suis lillois. Et Paris-Roubaix, mon père l'a couru, mes oncles l'ont couru, et mon rêve, ce serait que Bernard gagne Paris-Roubaix. Malheureusement, Bernard est pas un garçon très très souple. Il manque de souplesse pour passer les pavés.
Mais
je lui parle toujours. Il m'a dit un jour, d'ailleurs, ça c'était pas, c'est pas hier, il m'a dit l'année passée, je crois, bon, ben, Maurice, je te le garde un jour, ton Paris-Roubaix.
Ben, j'ai dû dire la vérité, là.
Ben, c'était... Saint-Malo,
vous vous souvenez de Saint-Malo? Ah oui, je me souvenais pas que j'avais dit tout ça, parce que j'aime parler de tout ça avec Jean-Marie Leblanc. Il en fait un livre d'ailleurs.
C'était l'époque où.
C'était en 1980.
C'était.
Il y a déjà deux ans, ça.
Est-ce que.
Je ne sais pas si je me rends compte de la portée de cette victoire. Il me l'a certainement dédié, mais à sa façon à lui, brutale, mais spontanée, c'est certain, oui. On ne peut pas dire qu'il soit insensible, puisque c'est un gagnant. Mais enfin, ça n'a aucune marque sur lui. C'est intérieur. Ça se devine pas. Ça se voit pas. Ça, je sais pas. Ça se devine plutôt et ça ne se voit pas. Ça, c'est Bernard.
Oh, ça se fait longtemps à l'avance. Hein. Je crois que c'est pas le jour même. Hein. C'est quelque chose qui travaille, on y pense inconsciemment, mais on y pense quand même. On fait un tas de choses pour préparer cette course sans vraiment y penser.
Et je me souviens d'une réflexion qu'il avait faite.
Docteur Armand Maigret.
Je ne me souviens plus à quelle période, c'était février ou mars. Où quand même il m'avait parlé de Paris-Roubaix. Puis il m'avait dit, tu sais, Paris-Roubaix, ça tombe quand même. La période de naissance, on attend. Et puis, ça fait quand même 25 ans qu'un Français n'a pas gagné.
Oui, mais je crois que c'est pas ça qui motive plus. Je crois que c'est l'envie de gagner. Hein. C'est pas parce qu'il y a 25 ans, hein. Je crois que c'est pas ça. Hein. Mais c'est une course que j'avais pas gagnée. Et puis, tout le monde disait, il peut la gagner. Et moi, personnellement, je pensais que j'avais quand même moins de chance que des spécialistes comme De Vlaeminck et Moser. Et peut-être que cette année, j'étais plus fort qu'eux.
Et puis c'est un défi, hein, parce qu'on lui lance un défi, il relève le défi. Alors qu'il n'aime pas du tout cette course.
Le Parisien libéré, l'élu du 12 avril.
Trouvé.
Georges Pagnou.
Les sondages sont d'actualité. Rien d'étonnant que, sacrifiant à la mode du jour,
Nombre de suiveurs et cru devoir en organiser un à 5 km d'un Paris-Roubaix plus somptueux et plus ouvert que jamais. On s'en doute, il s'agissait alors d'évaluer les chances des ultimes candidats à la victoire. Comme par hasard, trois des quatre grands de la plus grande classique du monde pouvaient encore...
Il fallait être inconscient ou sûr de soi pour lancer le sprint en tête sur la piste de Roubaix comme l'a fait Hinault.
Jacques Augendre.
Menacé par un finisseur aussi rapide et aussi adroit que De Vlaminck,
Le Monde.
Bien abrité dans son sillage, le champion du monde semblait battu au milieu de la ligne opposée. Mais il repoussa l'assaut de son adversaire, accéléra en sortant du dernier virage et conserva plus d'une longueur d'avance.
Quand je suis rentré sur la piste, j'ai dû rentrer en deuxième ou troisième position.
Cyril ?
Oui, oui, j'avais eu le temps de descendre de la voiture et d'aller regarder les derniers tours de piste. Et je dois dire que bon, c'est difficile de décrire un petit peu ce qu'on ressent parce que tant que la ligne n'est pas passée, on est dans le sprint avec. C'est vrai qu'on est sur la bicyclette.
Là, écoutez, c'est la première fois, Paris-Roubaix, que je suis arrivé derrière lui. Habituellement, je l'attends sur le vélodrome. Je n'ai pas eu de chance, hein, au fond.
Maurice Champion.
Parce que cette année, il y avait eu deux voitures de directeurs sportifs qui suivaient pour le dépannage. Puis quand je l'ai appris par radio, alors c'était Cadjo, le Guillou, j'étais l'annoncé dans le peloton. Mais même de ses adversaires, tout le monde était content, c'était Bernard Hinault.
René Tuipin, c'est un autre mécanicien.
Ah ben, la fin de la course, vous savez, on était avec le Coura, donc qui était à peu près à 3-4 minutes de Hinault. Et on écoutait au poste dans la voiture. Quand on a su qu'on avait gagné, c'était une explosion dans la voiture. Bien sûr, on ne pensait pas qu'elle allait gagner. Parce que quand il arrive au sprint, sur la piste de Roubaix, il perd en tête. Donc nous, on est des nordistes ici, champion puis moi, quoi. On trouvait qu'il amenait pas bien son sprint, quoi. On dit qu'il va se faire sauter sur la ligne. Mais comme il était le plus fort, il n'y a pas eu de problème, quoi. Alors, forcément, vous expliquez ça, vous savez, ça nous prend la gorge et puis on sait bientôt pas parler, quoi.
Ah, c'est Paris-Roubaix, oui.
Et Maurice Guillaume.
On avait bien préparé ça, on avait dû faire le tour du Tarn avant, oui. Il nous en a pas parlé tellement, il nous a surpris d'ailleurs. Parce qu'apparemment, même moi je croyais que ça l'intéressait pas. Puis le temps qu'il nous dit qu'il en a marre de ces putains de pavés, et maudit pavé, il avait que ses mots comme ça. Il est sûrement très heureux, mais il ne montre pas trop. Pas à Roubaix quand même plus que d'habitude.
En 81, quand j'ai gagné un amateur, j'ai pas crevé.
Marc Madio.
J'ai eu aucune crevaison, j'ai eu aucun ennui mécanique. Là, cette année, je rentre sur les pavés, je crève. Donc, c'était terminé, quoi. Et ensuite, je suis monté dans la voiture balai qui m'a emmené jusqu'au ravitaillement à Valenciennes. À Valenciennes, on est monté dans le bus et on est retourné directement à l'hôtel à Lille, quoi. Et on a pris la douche et on a suivi l'arrivée en direct à la télé.
Hinault, toujours Hinault, Hinault devant De Vlaminck, De Vlaminck, Hinault, De Vlaminck, Hinault, Hinault gagne, Hinault gagne.
Moi, je l'ai vécu à la télévision.
René Hinault.
Et puis la chute de Bernard alors qu'il était, enfin, avec le fameux chien.
Un chien traverse la route comme ça. Puis je suis tombé. C'est vite fait, hein. Je crois qu'à partir du moment où le vélo n'a rien, le corps, on regarde après. Mais quand on est si près du but, surtout. Bon, bah, il reste quoi, 10 km à peine, 15 km au maximum. Et puis se voir jeter par terre comme ça.
Si près de l'arrivée. Et l'arrivée en groupe sur le, sur le vélodrome à Roubaix. Mais là, disons que. Enfin, ça a été quelque chose d'impressionnant et une grande joie pour moi parce que j'étais chez Joël Marteille d'ailleurs à regarder ça.
Dans le virage, on voit Bernard menant le sprint devant, De Vlaminck derrière. Au même moment, les deux individus se mettent debout sur leur pédale, hein, engagent le sprint
Il y a un trou et au moment, on a l'impression qu'au moment où De Vlaminck fait son effort, il a dû pousser un « Oh !» Vous savez qu'a entendu Hino, et Hino en a profité avec un petit temps de retard pour porter le sien.
Quand le coureur commence à se lever sur le vélo, le bruit des boyaux n'est pas tout à fait le même.
On ne sait pas derrière, nom de Dieu, merde alors. Oh, faut qu'il respire, non?
Il est encore marqué par l'effort. Alors par conséquent, si, la seule chose qu'il demande tout de suite, c'est... Ah si, vous avez mes chaussons, Roland Mignot. Vous savez, il était particulièrement motivé cette année, je crois, parce que depuis longtemps, il savait que sa femme devait accoucher le jour de Paris-Roubaix. Et 3 mois avant, il m'avait prévenu, il m'avait dit, si Martine accouche comme prévu le jour de Paris-Roubaix, il faudra qu'ils accrochent leurs bretelles, les autres. Il était vraiment motivé.
Ça se fait longtemps à l'avance, hein. Je crois que c'est pas le jour même. Hein.
Je vais voir le lancement du stade.
Ou une course où le champ est arrivé détaché, Jean-Michel Le Lion.
8 km de l'arrivée. 280 km pour rien, enfin pas tout à fait puisque Bernard Hinault a été lâché. 10 mètres, 20 mètres, un lacet de différence. Ouf, il peut lever les bras.
Cyclisme, c'est le Belge Alphonse De Wolf qui a remporté le 72e Milan San Remo. Jean-Michel Le Lion.
Oui, ça c'était Milan San Remo, c'était le début. Milan San Remo, c'est la première classique en fait qui donne une idée déjà.
Pendant ce temps-là, à l'entrée de San Remo, Bernard Hinault se présente avec son visage des mauvais jours.
Oui, Hinault qui n'avait pas l'air content, c'est, il faut le dire, l'une des courses que n'a jamais pu remporter Hinault, Bernard Hinault, qui était fou furieux, non pas parce qu'il n'avait pas gagné, mais parce qu'il n'avait pas pu faire sa course. C'est le premier rendez-vous, grand rendez-vous du peloton. Le parcours n'est pas assez sélectif pour pouvoir déjà tirer des leçons sur les forces en présence avant le Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est dans 4 semaines.
Bernard Hinault, comme vous le prouve cette image, n'a laissé à personne le soin aujourd'hui de mener.
Alors une semaine après Milan-San Remo, c'était important pour Hinault, secrétaire international, parce qu'on avait des doutes. Je crois que ce sont les journalistes en fait qui avaient des doutes. On se demandait si Hinault avait bien préparé la saison, s'il avait assez de kilomètres, s'il avait.
Cyclisme, 2 étapes, 2 victoires pour Bernard Hinault dans le Critérium international de la route.
Et grâce à son effort, Hinault qui a d'abord gagné la veille au sprint, ça aussi c'était une leçon. La première épreuve en ligne, gagne ensuite l'étape de côte et enfin gagne le contre-la-montre. On ne savait pas encore qu'il allait préparer Paris-Roubaix de cette façon-là. On l'a su un peu plus tard. Paris-Roubaix, c'est dans 15 jours.
Belle victoire pour Bernard Hinault dans la première course en ligne d'avril, l'Amstel Gold Race. C'était un rendez-vous important pour Hinault. Avant le Tour des Flandres et le Paris-Roubaix, on regardait de près son comportement. Eh bien, voyez-le, ça ne s'est pas mal passé du tout.
Ah, ça passe aussi que la télévision a changé, c'est plus les mêmes présentateurs. Hein. Oui, le sprint avec, tiens, voilà De Wolf qui revient là et Vandenhout aussi. C'est en fait la seule image très très rapide de l'Amstel Gold Race, et Hinault qui se porte en tête du peloton avec Race dans sa roue.
On se retrouve devant, puis on dit pourquoi pas moi, j'ai peut-être ma chance aussi.
De Vlaminck en 3e position, on a l'impression qu'il va être battu par les deux autres. Il y a quelques frottements sur la fin, Race essaye de se dégager de la roue d'Hinault, et finalement Hinault complètement en force, avec un énorme développement, réussit à battre tout le monde. Alors on a su, après ce sprint, que s'il allait faire beau à Paris-Roubaix, Hinault pouvait se montrer le plus rapide du lot. C'est important. On peut dire Paris-Roubaix dans 10 jours.
Ouais, ouais. Il est déjà dans la course, c'est la veille, ça.
Ouais, bon, ouais. Ben, c'est facile de discuter avec lui, c'est facile parce qu'il parle bien français.
On sent qu'il n'a pas conscience du micro, là.
Bah oui, c'est pour ça que je suis avec moi, il parle bien français.
On sent très bien. Il se laisse aller, il n'a pas de...
Non, mais je te dis, quand il est avec moi, je te dis, sans problème.
Le problème de gabarit, on a longtemps dit que Bernard Rino était trop léger pour passer les pavés. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est lourd de sous-entendu.
Ah, c'est. T'as pas envie de les passer, tu les passes.
J'avais des questions, pas plus personnelles que d'autres, mais j'avais. Je crois que j'avais besoin d'un contact direct. Pas de poser une question entre autres, comme ça, immiscer entre d'autres.
Une petite coupette. Une petite, hein.
Est-ce qu'il vous plaît aussi de gagner Paris-Roubaix parce que vous n'avez jamais trop réussi dedans par les dernières?
Non. Pas du tout. Pas plus.
C'est pas un motif parmi les
autres. C'est une belle course, bien sûr, mais dire qu'on va gagner. Hein.
À la limite, c'est une interview et à la fois une conversation sans forme, sans trop de forme.
Toutefois, c'est difficile de rentrer sur les poufs. Ça sera dur. Surtout si tout le monde arrive ensemble.
Mais je veux dire, moi, je parlais de votre tempérament, quelque chose qui se refuse à vous. Est-ce que ça vous incite pas à
non, je veux pas les prendre de risques plus. La saison s'arrête pas à Paris-Roubaix.
Vas-y,
ça,
vas-y.
Ça pose un problème, non, pour frotter à l'entrée des pavés, tout ça?
Ben, il y a 3 ans, je frottais bien, et là, c'est le cul, dégagé.
Je sais pas si je suis observé. Ah, ouais, je suis observé parce que ce que raconte Inno les intéresse. C'est pas moi qui suis observé.
Non, la course.
Je pense qu'ils sont encore très professionnels dans cette affaire, tout en buvant du champagne.
Faut bien rentrer. Est-ce que si tu rentres bien là, ça te fait déjà 50 bornes de poursuite en moins.
C'est déjà. Elle
se perd là, oui. Elle se gagne pas là, mais elle se perd là.
On sait pas où elle se gagne, mais on sait où elle se gagne.
Est-ce que tu as des équipiers qui sont susceptibles de t'amener? Bah ouais. Lesquels, je veux dire, les...
N'importe lequel, hein. Que ce soit Maurice, que ce soit Yvon, que ce soit les autres, hein. Ils sont tous pareils, hein.
Je pense qu'un journaliste, il cesse jamais d'être professionnel. Je pense qu'Inno non plus, d'ailleurs.
Tout le monde va être là.
Je veux dire, quand Bernard Inno veut quelque chose, généralement, il l'obtient. Est-ce que ça vous agacerait de ne pas gagner dimanche?
Mais j'ai pas demandé, moi, à gagner Paris-Roubaix cette année. Il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, hein.
J'ai dit de l'or, c'était l'objectif de la presse.
Voilà. Si je peux le gagner, je le gagne, mais... Ce sera au cours de la course que je verrai.
Par l'opinion à travers les journalistes, mais je pense que l'opinion quand même l'hébiscitait.
Le beau temps. Hein.
Si le temps reste comme ça, c'est l'idéal. Avec un peu moins de voitures devant.
Il y avait déjà le climat de Paris-Roubaix. On parlait que de ça. Je veux dire, il n'y a pas eu de diversion, de digression, rien dans cette conversation. Il n'y avait pas eu finalement de boutade, enfin une petite, mais toujours sur Paris-Roubaix. Rouchon qui intervient, je me souviens plus très bien de la phrase.
Tu crains les...
Tire un bon numéro dimanche. Hein.
Pas le
23.
Je pense qu'en plus, il y avait aussi une sorte de rendez-vous avec l'histoire. Ça tombait, je pense, 25 ans après Bobet, un chiffre juste. Comme s'il fallait que l'histoire réponde à des chiffres justes.
23e, il était.
Au niveau tactique, il y a certains spécialistes, c'est un peu pompeux, mais il y a certaines personnes qui pensent que vous avez pas perdu Gant-Wevelgem.
Tu peux dire tu, hein.
Je peux alors. Que tu as perdu Gant-Wevelgem parce que tu les avais battus au sprint à l'Amstel et maintenant ils vont tout faire pour t'isoler ou profiter de la moindre faiblesse. Est-ce que tu penses que ça peut arriver aussi à Paris-Roubaix?
Non, il faut savoir être bon joueur. Bon, ben là, je suis piégé dans Gant-Wevelgem, t'es piégé. T'essayes de rouler un petit peu, ça revient pas. Ben,
est-ce que tu penses quand même que c'est pas, si tu veux, une réaction après l'Amstel?
Penses-tu?
Mais c'est vrai, il y a cette irritation sous-jacente dans le dialogue qui est peut-être due à son extrême déjà concentration sur la course.
Allez, hein. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses aller et puis terminer. T'as perdu. Tour d'après, tu gagnes. Chacun son tour.
Il est déjà dans la course, c'est la veille, ça. Ouais. Moi, je crois.
Faut savoir être bon joueur, hein.
Je veux dire, si. À la limite, il n'y aurait pas besoin d'écrire de papier. Il suffirait de rendre compte de cette irritation, mais. Évidemment, sur un journal, ça fait 2 lignes.
Est-ce que ça t'arrangerait que ça t'arrangerait que la bataille s'engage très tôt?
C'est la fin,
Elle ne va pas s'engager tout de suite, hein, bien sûr. Ça se roule mieux, hein. Ça va rouler bien plus vite. Ça roule vite, tous ensemble. Et puis après, ça décroche un par un.
René Derwick, Maurice Champion, Cyril Guimard, Philippe Bouvet. Je sens une passion autour de ça.
Est-ce que tu t'intéresses au côté
et moi, je ne la partage pas à cet instant. Je suis sur mes questions, je suis mon... J'ai un cours logique du questionnaire, de la pensée, et je la suis sans m'occuper du reste. Mais c'est un peu dommage. Là, je retrouve une atmosphère passionnelle que je n'ai pas perçue ce jour-là.
J'ai un coup de téléphone à 1h30 encore. Là.
J'accélère.
Je pense qu'il est concentré sur un sujet et que... À la limite, c'est comme un artiste dans la création. Il n'a pas tellement les autres soucis matériels. Il faut absolument qu'il se dérobe à ça, qu'il n'en tienne plus compte. Je pense que Hino était dans cet état-là.
Je suis désolé. Mais je...
Tu fais une page entière, là.
Ouais. Non, je fais beaucoup. Est-ce que, si par exemple, sprinter sur un vélodrome, est-ce que ça te... Est-ce que tu es plus à l'aise sur une route ou si tu arrivais par exemple au sprint sur un vélodrome, est-ce que tu aurais...
Oh, c'est pareil.
C'est pareil.
Surtout Roubaix, ça fait 400 mètres, c'est exactement pareil.
Finalement, tout... Paris-Roubaix dans ce dialogue-là, non?
Qui tu crains au sprint? Enfin, évidemment, c'est...
Ah, tout dépend de l'état de fraîcheur que tu arrives.
Ouais.
L'an dernier, j'ai bien battu de Meyer, de Wolf au sprint. Hein.
Ouais.
Peut-être pas tout Paris-Roubaix là-dedans, mais la fin est là, oui.
Puis tout dépend comment tu conduis ton sprint.
Et sur une piste, comment il faut conduire un sprint?
Tout dépend de l'adversaire, là. Il faut savoir le manœuvrer, et puis c'est tout.
La fin est là. Et il parle aussi de tactique. Ce qui est intéressant, finalement, il a employé la seule tactique qu'il pouvait employer, c'est-à-dire celle de l'homme fort, quoi, partir de loin. Finalement, c'est à la fois une tactique et une anti-tactique, je pense.
Monsieur, à la réception, monsieur, s'il vous plaît, merci.
Ouais. Ouais. Il était très sollicité puisqu'à la fin il dit qu'il avait aussi là. Il avait un coup de téléphone à 1h30. Et c'est ça qui doit être difficile quand même quand on est dans cette position de favori d'une course ou peut-être dans ces instants-là qu'on n'aimerait pas être à leur place.
Philippe Brunel.
L'équipe, 13 avril 81, le sol tremblait, Paino,
Roubaix.
Pierre Chani.
Des Paris-Roubaix, il y en a de tout calibre, des chauds et des froids, des pluvieux et des secs, des gris et des noirs, c'est selon, mais jamais de très rose.
Sous les pavés, la plage, Patrick Blin.
Roubaix, ses premiers mots sont pour la colère. Merde, laissez-moi passer. Happé par la masse, Bernard Hinault a le souffle court. Et un son rauque se fait jour à chaque inspiration. Il a besoin d'air et il le dit. Voici un demi-tour, 150 mètres, qu'il a gagné Paris-Roubaix. Un demi-tour de bonheur solitaire, à rire à pleines dents de cet étrange sourire des coursiers quand le blanc de l'émail vient effacer le masque gris de la boue et de la sueur déposée par la route. Instant fugitif mais délicieux puisque solitaire.
C'est tout de même une cochonnerie. Jean-Marie Leblanc.
Roubaix. Le temps que les bras levés se relâchent, geste rituel. La serviette éponge humidifiée pour se laver grossièrement le visage. Entend-il seulement le public roubaisien qui scande son nom?
De Wolf méritait d'être avec les grands.
Roubaix.
Noël Quédel.
Il se passe tant et tant de choses sur la route de Compiègne à Roubaix. Il s'y déroule tant de drames qui resteront à jamais inconnus. Il s'y produit aussi tant d'exploits pour rien, au cœur d'une mêlée où personne ne pénètre vraiment, que jamais vous ne lirez le récit complet de la course.
Et comment vous voyez la course demain sur ce pavé?
How do you see the race tomorrow?
Greg LeBond, comment voyez-vous la course demain?
For you?
I hope I can finish, but to finish.
J'espère que je pourrai terminer la course.
A great feat.
Si je termine la course, ce sera une grande victoire.
If I can.
Si je peux le faire.
What do you think about Hino?
For the race tomorrow?
Et que pensez-vous d'Hino?
I hope he wins.
J'espère qu'Hino gagnera.
I hope he wins. That's what I can say.
J'espère vraiment qu'il gagnera. Et que pensez-vous de l'homme?
C'est
un homme, c'est un gentleman,
very nice.
Très très amical.
A very nice person. He's friendly to everybody. It's a good,
vraiment
good quality.
Une personnalité très agréable.
Je crois que j'ai des jours comme ça. J'ai l'impression que tout réussit. J'ai vraiment la chance. Et le matin même, quand je me lève, impeccable, je me sens heureux, j'ai envie de courir, j'ai envie de participer.
Le travail d'un coureur cycliste, c'est pas quand il monte sur son vélo, hein, c'est dès qu'il se prépare. Tout est fonction de l'heure du départ. Les coureurs mangent 3 heures avant le départ. Roland Mignot, soigneur, kinésithérapeute. Par conséquent, si le départ est à 10h, il mange à 7h, et nous, on doit se lever vers 5h15, 5h30.
Bonjour. Monsieur. Paille ça commence la veille. Ouais, la veille, on doit enlever tous les boyaux des roues.
Vous gonflez à combien, là?
6 kilos.
Je m'appelle René Tuipins, je suis mécanicien chez Gitane.
6 kilos.
Et bien sûr, il y a eu l'entraînement dans la semaine. Il y a déjà eu de la casse parce qu'ils ont déjà fait les pavés, ils ont déjà eu des gravaisons. Donc, il fallait pas tout ça. Et on change tous les boyaux. On met des boyaux spéciaux pour aérober.
C'est celle qui
vend
sur la voiture à
ciel, tout ce qu'ils emportent dans leur poche. C'est enveloppé dans du papier aluminium ou papier cellophane. Découper 200 morceaux de papier de cellophane, ça prend un certain temps. Alors ça, déjà, on gagne du temps en le faisant la veille au soir. Noyon, il n'y a pas de problème. On est des vieux clients, alors on n'est pas chez nous, faut pas exagérer, mais enfin, on est bien.
Bonjour.
Donc là, il faut changer à peu près 40 boyaux. Un paire de roues. Il y a une dizaine de gars qui font la course et une dizaine de paires de roues sur la voiture. Dino, c'est un vélo de 54, il fait 54 d'hauteur et 54 de longueur. C'est pas un vélo qui est autrement que n'importe quel vélo qu'on peut trouver dans le commerce. Lui, pas difficile pour dessous pour un vélo. Il arrive le matin, il dit bon, le vélo il est prêt, oui, bon, il saute dessus, il est parti. Un coureur qui marche est beaucoup moins difficile.
Paris-Roubaix, c'est comme au loto. On peut gagner gros, mais si une part de chance existe, la force prime tout. Il ne peut y avoir qu'un vainqueur et qu'un gros lot. Il fallait jouer le 40, les suivants ne sont que des nombres subsidiaires. Robert Silva.
On gonfle les vélos, on les chasse sur les voitures pour partir de Noyon à Compiègne. Là, bien sûr, on arrive à Compiègne. On revérifie les vélos, un petit coup d'âle, quoi. Et puis c'est parti.
Compiègne, dimanche sous le soleil.
Un plateau exceptionnel dans le 79e Paris-Roubaix.
Larges avenues boisées. Immeubles cossus en pierre de taille qui dorment depuis des décennies, parfois des siècles, à l'ombre des chênes, au fond de somptueux jardins à la française. Cette douceur de la cité bourgeoise qui respire au rythme feutré d'une vie provinciale agréable paraît incongrue dans la préparation d'un Paris-Roubaix, course terrible s'il en est, puisqu'elle oblige la fine fleur du cyclisme international d'aller au charbon dans ce qu'on a appelé l'enfer du Nord.
Directeur du Tour de France de Paris-Roubaix, honoreront Louison Bobet, dernier Français vainqueur de Paris-Roubaix, c'était il y a 25 ans.
Nous, après, tout ce qu'on peut faire, c'est une prière pour gagner, mais après, nous, on perd contact avec eux. Parce qu'on ne suit même pas la course, on prend les raccourcis pour aller d'un ravitaillement à l'autre, et puis après, pour être à l'arrivée.
Donc là, on monte en voiture avec un sandwich, un petit coup à boire, quoi. Et puis, on part sur la route.
Le verdict tout à l'heure, vers 17h, sur le Vélodrome. À toutes et à tous, bonne journée. La meilleure façon de se dire au revoir et de le faire en musique.
Départ réel, 10h30.
Jacques Godet, là.
Michel Robin, carrefour national 31, départemental 130, choisi au bac. Curieux enfer en vérité, celui des grands axes routiers qui cataloguaient méchamment notre région ayant disparu depuis belle lurette, les organisateurs ont dû se rabattre sur un enfer de fortune, caché entre pâture et labour afin de permettre la survie de l'épreuve. Saint-Léger-au-Bois, 10h47. Mieux vaut désormais parler de l'enfer des champs du Nord. Champs qui, la plupart du temps, sont d'ailleurs accessibles par d'autres voies. Noyon, Huiscar, Golancourt, 11h28, 38,5 km. L'essentiel ne se réduit toutefois pas à une querelle de qualificatifs. Il s'agit avant tout de préserver Paris-Roubaix. C'est fondamental, comme on cherche à conserver les trésors d'architecture légués par nos ancêtres. Somme, passage à niveau. M. 11h53, passage à niveau. Car cette course ne ressemble à aucune autre. Saint-Quentin, unique, elle n'en a que plus d'impact auprès du public, que plus d'attrait pour les coureurs à la recherche d'un succès qui frappe l'imagination et reste gravé dans les mémoires. Bohain en Vermandois. 12h37.
Paris-Roubaix, na 80 kilometer ben ik gevallen.
Dus om 10 kilometer voordat de kassei begon. Dus in een klein dorpje zijn we 4 renners gevallen en ik ben daar op een vluchtheuvel gevallen.
Donc, monsieur tombé.
Na 80 kilometer, dus. Ja, preek 80 kilometer. Dus wie tombé. Naadsronning, Ronnie Naad. Naadsronning, Ronnie Naad. Naadsronning.
Dans Paris-Roubaix, comme pour les autres courses, je suis juste derrière la voiture de M. Jacques Gonnet. Donc deuxième voiture derrière le peloton. Je suis donc la course d'assez près et je vois bien ce qui s'y passe. Gérard Porte et je suis médecin dans de nombreuses courses cyclistes.
Regarde les mecs avec les roues, regarde, ouvrez le cœur. Ouais.
Et l'an dernier, les premières chutes dans Paris-Roubaix ont eu lieu très tôt et je n'ai plus jamais vu la tête de la course. J'ai fait tout le long du chemin que de ramasser les coureurs.
Naadsronning. Dat is moeilijk te zeggen. Het was eigenlijk een beetje zenuwachtig gedoe in het peloton. En, ja, het is eigenlijk een stomme val geweest. Dat is alles.
Le peloton était assez nerveux. Alors tous bougeaient. Puis la chute est arrivée ainsi, bêtement.
C'était en effet un virage sur la droite et il y avait un îlot directionnel au milieu de la chaussée et le peloton s'est serré sur la droite pour passer au plus court et ce coureur belge était sur la gauche et je crois que c'est sur le bord de l'îlot directionnel ou même sur une balise d'indication de cet îlot directionnel qu'il s'est fracturé le fémur.
Ben oui, j'ai failli y être. Et j'ai eu le réflexe peut-être de ne pas essayer de tourner puisque ce n'était pas possible. Et j'ai passé derrière ce rond-point alors que le coureur qui était juste devant moi a voulu absolument virer et ce n'était pas possible. Et lui, il a eu une fracture de la jambe.
C'est la première fois que je vois une fracture du fémur. Une fracture importante, enfin grave, avec plusieurs fragments.
Et ils m'ont emmené terug naar België gebracht. Dus en dan heb ik in het hospital 5 weken geleden.
Il est resté 5 semaines à l'hôpital en Belgique.
À l'évidence, pour moi, il avait quelque chose de grave. Et il avait une manière de se plaindre tout à fait typique, enfin, qui laissait supposer qu'il avait quelque chose de grave pour qu'un coureur cycliste professionnel ait à se plaindre de cette manière-là.
Eh oui. On le voit de la manière dont la chute se passe, de la manière dont le coureur tombe, lui. Et là, la manière dont il est tombé, il est arrivé donc, déjà couché sur la route. Et la partie qui l'a arrêté, c'était vraiment le trottoir, mais une partie, un angle de trottoir. Quand on regarde ça, on se dit, celui-là, il ne va pas repartir tout de suite. En général, un athlète casse au mois d'avril une bonne partie de la saison qui est finie. La saison, elle est, pour ainsi dire, finie.
Naadsronning, Ronnie Naad. Naadsronning, Ronnie Naad.
Allô, allô. Le docteur Gérard Port nous signale que le coureur 208, Naek, victime d'une chute, vous vous en souvenez, a traversé de Bohain, est victime d'un traumatisme grave à la hanche droite et à la cuisse droite, il est actuellement dans l'ambulance et va être dirigé vers l'hôpital le plus proche.
Nord.
Attaque du 21 Roche au kilomètre 86.
C'est une course qui se déroule très vite. Au départ, il est toujours possible qu'il y en ait un qui parte et puis qu'il prenne 20 minutes d'avance. Mais en général, ça ne va pas jusqu'au bout. C'est quand même très dur. Et le coureur qui a fait une échappée de 100-110 km avant, quand il arrive sur les pavés, il est déjà un peu émoussé, comme on dit.
13 secondes d'avance pour le 21, Roche.
Busigny. Départemental 21, départemental 98.
Allez, Lina!
Allez, allez, allez!
Allez, André! Le tour!
souvent on se fait emmener par les équipiers. Bon, bah, cette année, c'est ce qui s'est passé. Je me suis fait protéger par mes équipiers.
Capricorne, peloton, Capricorne.
On l'a protégé jusqu'à l'entrée des pavés, quand même. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup de travail à faire.
En 81, bah, disons que c'était d'essayer d'emmener Bernard le plus loin possible, surtout pour le dépanner au point de vue crevaison dans la première partie des portions pavées jusqu'à Valenciennes.
Crevaison de Robert Alban, kilomètre 93.
Carrefour, départemental 98, départemental 932.
Plus que 20 secondes pour le 21, Roche.
Je crois que dans une course comme ça, la stratégie, elle est... Il n'y en a pas 50, hein, je crois. Il faut arriver à amener le leader à un point précis qui est l'entrée des pavés en essayant de lui faire faire le moins d'efforts possible. De manière à ce qu'il arrive, lui, avec le maximum de réserve. Et dans ce genre de course, bon, on sait très bien combien de coureurs peuvent aller jusqu'à l'arrivée. On en sacrifie, parce que c'est vraiment ça. On en sacrifie 4-5 qui vont faire la première partie et le reste vient avec le leader. En étant protégé aussi. Ça discute pas mal, bon. Ça roule vite, mais on peut encore discuter. Mais après, quand la compétition vient vraiment très très sérieuse, et surtout au moment où ça roule à fond, là, ça change tout. Hein. Il n'y a plus personne qui dit un mot, tout le monde garde son souffle pour la course. Essayer de prendre la place du voisin pour être le premier à rentrer sur les pavés. Ça bouscule un peu. Hein. Il n'y a pas de cadeau, hein, mais ça fait partie de la course et tout le monde le fait. Donc c'est celui qui est le plus téméraire, qui n'a pas peur de tomber, qui va. Hein. Quelquefois aussi, on se retient un petit peu parce qu'on réfléchit. Et... moindre faute... de la part du coureur, et puis c'est la chute, et la chute qui peut entraîner l'arrêt de la course. Hein.
Mauroy, Remeux.
Chute massive à peloton. Kilomètre 95.
12h57.
Oh, de très nombreux coureurs, au moins 30 coureurs. Fonce de Wolf est dans cette chute également. Kilomètre 95. De Wolf est à pied, cherche un vélo. Et se dirige vers
ça. Et ça, c'est le problème des coureurs qui frottent trop.
Kilomètre 95, donc chute massive d'un peloton, pas de blessés sérieux apparemment, mais beaucoup de bruit de matériel. Du peloton regroupé à l'avant.
Montée, départemental 932, départemental 955.
Arrêter un coureur, c'est toujours un problème. Enfin, moins dans une course comme Paris-Roubaix que dans une course par étape. Mais il y a toujours un moment où il faut prendre une décision, et cette décision, il faut la prendre rapidement, parce que si on remet un coureur sur la bicyclette 10 minutes après, il a perdu. Allez,
frotter énormément pour être dans les tout premiers sur les pavés. Et là, je suis rentré quand même pas trop mal pour une fois.
Neuvilly. Véo à droite. 106 km. 13h09. C'est à Neuvilly qu'on entre dans un autre monde.
Bazar en seconde position.
celui de l'irréel, de la féerie pour les uns, de la damnation pour les autres, ceux que l'on paye pour faire avancer une machine qui sursaute à chaque coup de pédale.
Allez, actuellement en tête du peloton, le 25, le 9, le 30, le 93, le 132, début de la zone de pavé à Neuvilly.
À Neuvilly, l'épreuve prend une toute autre dimension. Le paysage a changé de ton. Tantôt vert, tantôt ocre, il ne promet rien de bon, surtout quand un ciel grisâtre traîne son ennui tout au long d'un dimanche après-midi.
On a eu les deux. On a eu une partie qui a été mouillée par un orage et l'autre partie donc qui roulait bien. Mais c'est toujours dangereux à partir du moment où ça devient un peu mouillé.
C'est Francesco Mazer qui entre le premier sur le pavé.
À gauche vers Solène.
On perd sur la route, mais le plus dur, c'est arriver au pavé. Alors quand on arrive au pavé, là, la course, elle commence à se décanter, quoi. Et puis, il y a des quoi à tout. Et nous, on se trouve à 3, des fois 4 minutes, des fois 5 minutes des premiers. Sinon, il n'avait pas été dépanné, mettons, par Bertin, le premier coup qu'il avait, et le deuxième coup par Poisson, il ne serait pas arrivé, parce qu'il aurait dû attendre après la voiture pour être dépanné, qu'on se trouvait à 4 et 5 minutes.
Il y a des équipiers qui le savent très bien, qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Hein. Bon, cette année, j'ai eu deux gars qui, tout de suite, m'ont donné deux roues. J'ai crevé deux roues en 100 mètres. Je suis sorti des pavés, j'étais pas crevé et un seul coup, paf, je crève. Je crois que la première fois, c'est Yvon Bertin qui me donne la roue. Je repars, paf, je recrève encore une autre fois. Mais ça, c'était l'autre roue. Et là, c'est Pascal Poisson qui me la donne. Bon, après, je me retrouve déjà peut-être avec une minute de retard, tout de suite. Hein. Je suis revenu, mais sans vraiment me paniquer, en ayant l'impression d'être très fort. Et de penser en moi-même, bon, il n'y a pas de raison, tu vas rentrer facilement. Il y a des jours comme ça, vous ne savez pas pourquoi. J'ai l'impression que tout réussit et... Bah, c'est un jour de grâce, comme on dit.
Passage passage à niveau, grande ligne.
À partir du moment où on est dans les pavés, c'est très difficile parce que sur les 30 premiers kilomètres, les territoires sportifs ne peuvent pas passer. C'est pour ça que ce sont vraiment les équipiers qui donnent tout de suite les roues. Il n'y a pas d'autre possibilité d'avoir de roues.
Il y a Pascal Poisson, il y a Yvon Bertin qui se sont sacrifiés à ce moment-là. Quoi. Moi, j'ai crevé juste avant, donc pour nous, c'était terminé. Quoi.
Marc Madio.
Et ensuite, je suis monté dans la voiture balai qui m'a emmené jusqu'au ravitaillement à Valenciennes. À Valenciennes, on est monté dans le bus. Le bus de l'équipe était là. Toutes les équipes ont des voitures à cet endroit-là. C'est le premier ravitaillement. Et là, on est monté dans le bus et on est retourné directement à l'hôtel à Lille. Quoi.
Valenciennes.
Bernard, il a crevé deux fois, il a chuté.
Moi, j'ai perdu la course à Valenciennes. J'étais avec Maurice Champion. Alors, on fait le ravitaillement. Et je suis au ravitaillement, moi, avec des roues. Parce qu'ils ont déjà payé une portion de pavé avant. Là, il y a déjà eu des crevaisons, il y a déjà eu des routes cassées. Alors, en place, le matériel, c'est la voiture directeur sportif qui suit le premier. Je m'appelle René Tuipens, je suis mécanicien chez Gitane.
La caravane atteint Valenciennes à l'heure du café.
Donc, 8 jours avec Cataneo, Frantaise, Carte qui grandit et crevaison, nous signalons il y a quelques minutes de Alphonse de Wolf. Cataneo, l'italien, Frédéric Bichot, le français, en tête de l'épreuve, à quelques minutes seulement du contrôle de ravitaillement ici même à Valenciennes.
Il est temps de sortir de table pour prendre place dans l'un de ces affreux boyaux.
Le passage des musettes, c'est un truc extrêmement délicat. Dans Paris-Roubaix, ça va toujours très vite, puisque le premier passage de musette a lieu après déjà la première fraction de pavé.
Roland Mignot.
Ce qui fait qu'il y a déjà une sélection qui est faite. Ceux qui sont devant ont tout intérêt à ce que ceux qui sont derrière ne reviennent pas. Ça passe très vite.
Pour assister au spectacle, éventuellement encourager Hino ou De Vlaminck. Surtout, pour prendre quelques clichés qui permettront de dire un jour aux petits-enfants, ce Paris-Roubaix, j'y étais. Après la victoire d'Hino, ces photos ont désormais valeur de document.
Tout le monde veut sa musette, comme de juste. On dit, on se met ou au début ou à la fin du ravitaillement. Quand ils voient la banderole zone de ravitaillement, ils savent déjà qu'ils vont nous trouver. C'est pour ça qu'on est habillé avec des couleurs vives et tout, pour qu'eux viennent sur nous. Nous, on ne peut pas aller se mettre dans le milieu du peloton. Ça passe de tous les côtés.
Les soigneurs ont un maillot ou des pulls ou alors une casquette. Ils sont habillés à peu près tous pareils. C'est un moyen pour nous de les reconnaître.
Passer la musette très haut parce que il faut que l'attraper. Comme toutes les musettes, c'est une sacoche avec un cordon. Si ça se balance et que ça vient se mettre dans la roue avant, la course risque de se terminer là parce que le gars tombe. Hein. Bernard, lui, c'est spécial. Ce qu'il a pu manger. À la valeur d'une tartelette, et demie aux pommes, quoi, et deux, trois petits carrés de gâteau de semoule. Et alors après, des bidons d'aliments liquides.
Pour moi, un bidon d'aliments liquide, qui est fait donc à base de farine, à base de minéraux, me permet de faire 150 km, sans avoir à prendre du solide. Donc avec deux bidons comme ça, je peux faire toute la journée.
Dans les musettes, on met tout pareil. On met un bidon de thé et un bidon d'aliments liquides. Après, dans la musette, chacun fait son tri. Boyer m'avait demandé, lui, il voulait du café. Il faut faire une très grosse quantité parce que s'ils sont en train de manger, qu'ils ont défait un petit paquet dans lequel il y a un gâteau de riz, s'il y a une attaque, il n'y a plus qu'une chose à faire. C'est balancer ce qui a été développé, puis attendre que ça se calme pour en manger après. Alors il faut donc avoir le double ou le triple de ce qu'ils ont besoin. Quoi. Couleurs de maillot, bien que différentes, sont quand même presque toutes identiques. Je me repère aux casquettes. Bernard, c'est encore beaucoup plus compliqué parce que on cherche le maillot Renault. Alors, dans les courses par étapes, où il a le maillot jaune, où il a le maillot vert, où il a le maillot comme ci, comme ça, et quand ils arrivent à 50 à l'heure, c'est quand même difficile à voir. On cherche un maillot jaune et noir, et tout d'un coup, il y a un gars qui arrive avec un maillot, qui fait « Oh !» Il n'y a plus qu'à une seconde, hein, et cette année, Ah ben là, il y avait son maillot de champion du monde. Alors, le maillot de champion du monde, c'est un maillot qui en principe est blanc. Et quand il est arrivé sur nous, il n'y avait rien de blanc. C'était un tas de boue.
Un coureur, quand il est en position, on ne voit pas le maillot. Donc ce sont souvent le bout des épaules qui leur permet de reconnaître leur coureur.
Comme il est populaire, le son de la voix des spectateurs qui étaient à 100 mètres de là nous l'annonçait, quoi.
À partir de Valenciennes, je suis le peloton. Là, il passe encore une trentaine dans le peloton. Lemon, Boyer, Le Guillou, dans le peloton. Là, on était derrière le premier peloton. C'est formidable, c'est pas croyable. C'est plus Paris-Roubaix d'il y a 20 ou 25 ans. Il y avait des pavés, d'accord, mais praticables, quoi. L'année passée, Ino y est arrivé, bien sûr. Il est arrivé. Mais il y avait un terrain sec, tandis que moi, j'ai fait avec Ino il y a 3 ans. Il y avait de la pluie, il a tombé 3 ou 4 fois. Il a fallu le remettre sur son vélo, il y avait des motos partout. Il y a une fois, il ne voulait plus partir. C'est Guillemette qui a descendu de la voiture pour le pousser.
Petite forêt, Bélingue.
Gagner Paris-Roubaix.
Passage à niveau ligne secondaire.
C'est une voix qui compte, quoi. Je sais pas, si Ino n'avait pas gagné Paris-Roubaix, ben, je trouve qu'il lui a manqué quelque chose.
Oh, les motos sont bloquées en plus.
C'est la moto, c'est parce qu'elle fout cette moto là-bas.
14h31. Les plus perfectionnistes choisissaient de s'allonger près de la plaque la plus boueuse ou à proximité des nids de poules. En cas de chute, sait-on jamais?
Paris-Roubaix, il voit personne. Quoi. Il ne voit pas les gens sur le bas-côté. Il voit que des pavés. Là.
Oh, les mecs dans les champs, ils courent avec les godasses. Et la terre, elle est grasse comme tout.
Sensationnel quand tu nous tiens. Chemin vicinal.
Très souvent, on retrouve d'une année sur l'autre à peu près les mêmes pavés. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a des pavés qui disparaissent, il y a des trous à la place, qui a un mauvais temps, et les pavés sont très lavés et il n'y a pas de terre entre les pavés. Ou le contraire, où les paysans travaillent beaucoup dans les champs, donc parce qu'il ne pleut pas, et ramènent de la terre, et là, il n'y a plus de pavés, il n'y a plus que de la terre.
Passage à niveau. Carrefour.
On est totalement pris par la course. On est sur ce petit bout de pavé, là, au milieu, là. Et puis des coureurs par là, des gens de chaque côté. Ah, on est toujours aux aguets parce que peu qu'un coureur il tombe ou n'importe quoi, hein, qui vient, qui nous double, qui vient derrière, quoi, sur la droite ou sur la gauche, il y en a partout, des fois. Il y en a partout.
Carrefour départemental 955, chemin vicinal.
Ben, on est sur le toit de la voiture, il y a un coureur qui est là, qui tend une roue. Et ben, on lui jette la roue du toit de la voiture, après on est sur le toit, et puis lui, il rend la roue avec, puis on est parti, on ne peut pas arrêter.
Situation en tête, maintenant, de Vlaminck, et de la salle revient sur Vermitienne et Cataléo. Grand passage au niveau difficile et pour eux.
Il y a de la joie ici, hein.
Il y a encore une moto tombée, non? Ah non, si. Encore
un moto. Il y a
pas la caméra, c'est honteux, hein. Une bande de salauds. On te les faire passer par ici.
Lino, il n'y a pas de souci sur le côté à plus.
Ouais, ouais. Mais c'est vraiment sadique. Hein.
Oui, mais d'une année sur l'autre, on se rappelle. Je crois que là, c'est comme si c'était une caméra qui filme. Sauf que le film, il part à l'envers.
Continue d'avancer, voiture à l'avant, vous n'êtes pas encore trop près.
Et c'est l'œil qui voit et qui sait les endroits dangereux. Parce qu'on ne peut pas tout reconnaître. C'est pas possible de reconnaître tous les pavés. Mais il y a des endroits précis, on sait que pendant 200 mètres ou 400 mètres, 500 mètres ou 1 km, il va y avoir un très mauvais secteur pavé et qu'il faudra passer sur la berne à côté. Ou alors ce sera dans un virage où il y aura une flaque d'eau.
Il y a le beaucoup, bien sûr, mais faut passer, il n'y a rien à faire.
175 km. 14h52.
Je la vois qui chevrotte là, on était vraiment sur des pavés extrêmement difficiles. Jean-Paul Brouchon. On dirait que j'ai peur.
National 49 vers Beuvry. Beuvry. Orchy. Chemin des prières, chemin des abattoirs.
Alors Bernard est un maître extrêmement secret, il voulait quand même trouver le moyen de savoir si pendant la course sa femme était partie à la clinique pour accoucher. Alors je lui avais proposé un moyen bien simple, une personne de l'entourage de son épouse avait pour mission de téléphoner à la maison de la radio qui me répercutait l'information sur la moto et sur la moto ensuite j'allais lui dire pendant la course ce que la personne avait dit au téléphone.
Il y avait un rapport donc, avec Jean-Paul, puisqu'on s'entend bien, avec beaucoup d'autres aussi. Hein. Mais Jean-Paul avait pris l'initiative. Donc, à partir du moment où le bébé était arrivé, il pouvait me l'annoncer en course.
184 km.
Il est quand même assez difficile de l'annoncer dans les 15-20 derniers kilomètres.
15h07.
Le petit Alexandre est né 6 heures après sa victoire.
Plus on remonte vers Roubaix, plus la foule grossit. Carrefour à gauche. Les doubles rangées s'étoffent, pas seulement au cœur d'une zone particulièrement mauvaise. Hameau, à droite. Dans les villages, au détour d'un virage, un grand panneau de soutien, l'intention de Bernard Hinault.
Claude ! Claude !
Une autre plaquette pour Van Overschelt, du côté de Bercé. C'est là qu'il gagna un jour le prix du Pevel, chez les amateurs. La course entre alors dans sa phase cruciale.
Bernard Hinault repart, il a 50 mètres de retard.
Martin Sarre à droite, 15h46.
Sur la fin, comme ça, il y a quand même l'écoute qui est très importante.
rue du Pavé Bleu. 217 km, 15h56.
Le mécanicien sur le toit de la voiture, Francis Mort ici.
Les événements s'accélèrent.
Ou le souffle plus court ou le souffle plus rapide.
À gauche.
Bernard Hinault à 10 mètres environ de la fin de ce groupe.
Place Jean Moulin.
Un coureur qui est derrière, souvent va changer de plateau, il va changer de pignon. Et ça, on l'entend.
Voilà, Bernard Hinault rejoint maintenant le groupe de tête.
Rue Gambetta, 223 km. 16h07. À droite après le bois.
Et c'est là qu'il faut porter l'attaque, mais.
Car de Blamin qui est un habitué, une autre tourne.
Toute annonce par la radio de bord d'une crevaison, d'une chute, peut tourner au drame. Pont sur autoroute. Rue de la Vache Bleue, à droite.
Et attention, on est dans le dernier secteur, ça vue maintenant.
Mais là, ça va quand même moins vite que l'entrée sur les pavés. Il y a quand même moins de coureurs, surtout.
À droite, vers Bosquet.
Kuper est en train de se battre, là-bas. Regardez, Hino, devant.
L'oreille collée au transistor à l'affût de la moindre information, la foule attend.
Et là, bon, bah, il faut écouter, il faut savoir.
Tout droit.
Même le bruit d'un boyau, de quelqu'un qui va plus vite ou qui démarre.
Regardez-le là-bas, toujours devant, en tête. En tête, avec Élie Kuper au maillot maculé debout.
On lutte contre le vent, on lutte contre le parcours, contre les plaques d'égout, les plaques blanches, donc de passage cuté et tout ça. Bon.
Hey, attention.
Les visages se crispent.
Ah, Valam, allez, Daniel.
Les yeux scrutent l'horizon pour apercevoir, entre une armada de motos, les grands de la route qui cheminent vers Roubaix, la terre promise. Chemin vicinal à gauche vers M.
C'est la fin des pavés ?
M.
C'est la fin des pavés, là.
Là, il ne faut pas commettre la moindre erreur, autrement, voilà, c'est la victoire qui part.
Voici M. Les pavés sont enfin avalés. Ils n'ont pas créé la décision. Roubaix, Roubaix, Stade Vélodrome.
Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que c'est Kuper, Bernard Giraud, qui va rentrer le premier sur le Vélodrome en emmenant Dallandre, Kuper en deuxième position, Bacalster en troisième position, Hinault en quatrième position, pas de chute dans le dernier virage, de Meyer.
Michel Goujon.
L'équipe, jeudi 21 janvier 1982, de Meyer terrassé. La nouvelle est tombée hier matin, brutale et lapidaire sur les téléscripteurs. Marc de Meyer, 32 ans, le coureur professionnel belge, bien connu pour avoir notamment remporté Paris-Roubaix en 76, était décédé dans la nuit, terrassé par une crise cardiaque. C'est une grande perte pour le cyclisme belge.
On l'a souvent dit et écrit, c'était le dernier des Flandriens, peut-être par sa physique, le type très costaud. L'aspect un peu, je ne dirais pas brutal, mais quand même assez dur.
Wilfried Meert.
Mais qui cachait quand même aussi une chaleur de cœur, enfin, si je peux me permettre cette expression-là. Parce que c'était vraiment aussi le gars qui était toujours prêt à aider tout le monde. Ça, c'est de meilleur. Trop modeste, un peu, pour croire vraiment en les énormes qualités qu'il avait. Et d'ailleurs, il a gagné un Paris-Roubaix, Mais il a été 3-4 fois dans les 5 premiers. Qui jouait avec ses forces, qui ne connaissaient pas les limites. Jamais. Qui ne savaient pas ce que c'était de se cacher dans le peloton. Il était toujours là quand il fallait travailler, quand il fallait aller chercher les fuyards, quand il fallait faire des poursuites. De Meyer n'a jamais hésité à le faire. Peut-être qu'il a un peu payé ça aussi.
De Meyer, le moteur est à l'extérieur et il y a deux hommes qui est à gauche sur la piste maintenant.
Non, vous allez vous dégager. Non, vous ne passez pas là.
Salut, attention!
Le suspense touche à son paroxysme quand les hommes de tête pénètrent dans le vélodrome sous un vacarme de deux hélicoptères qui tournaient autour de l'enceinte. Puis 100 mètres de sprint sur le ciment. Et...
Alors l'arrivée sur le vélodrome.
La distance sur un tour pour les 6 coureurs qui prétendent maintenant à une victoire dans Paris-Roubaix.
Cooper qui rentre en tête d'ailleurs.
De sprint was voor mij niet zo belangrijk, omdat ik een week voordien had gewonnen in de Ronde van Vlaanderen.
Dino en deuxième position.
Quand je suis rentré sur la piste, j'ai dû rentrer en deuxième ou troisième position. La première chose que j'ai fait, c'est de remonter pour revenir en tête, pour faire donc le dernier tour.
Celui qui ferme la marche, c'est Francesco Moser.
Io sono entrato nella pista per ultimo.
Van Kelster va se rapprocher un petit peu et donner l'impression de lutter.
Ja, ja, dat kan ik zeker. Het was dus een gevecht om in het wiel van Hinault te zitten.
La chance de Meyer qui est en 1, 2, 3, 4, 5e, 4e position, 5e position, c'est évidemment de pouvoir déborder à l'extérieur en prenant tout le monde par surprise. Et Meyer va se rapprocher avec son maillot bleu, on va bien là. À un tour de l'arrivée, au moment où les hommes entendent la cloche.
La cloche, elle retentit toujours. Hino, il subit le bar de Blamagne.
Ja, we zijn binnengekomen in de vélodrome. En ik zat aan het wiel van Bernard Hinault. En...
Hino en tête, qui reste à la corde. C'est important de rester à la corde, parce que ça oblige les autres à faire l'extérieur, hein, donc à faire une distance plus grande.
Quand je passe la première fois sur la ligne, je suis déjà en tête. Et c'est moi qui emmène.
Et puis Van Kelster qui va essayer de partir, là, tout à fait à l'extérieur. Dans l'avant-dernier virage.
Il est très rapide, attention, il était maillot vert dans le tour de l'avenir.
Ja, ja, dat kan ik zeker. Het was dus een gevecht om in het wiel van Hinault te zitten. Dus zijn wij de pist opgedraaid met Hinault op kop. De Vlaming in het wiel en ik rechts van de Vlaming. En het was dus...
Guido van Kalster.
Ja, moeilijk
voor ons. Je bent rentré en piste en même temps que de Vlaming, à la droite d'Hino, pour essayer d'avoir la roue d'Hino. Et puis le sprint s'est déroulé de plus en plus rapidement et vous l'avez suivi de plus en plus vite, quoi.
Beginnen gaan te sprinten, eigenlijk een ongelooflijke sprint. Sterk, een formidabele sprint van hem. Altijd regelmatig, vlugger. Hij heeft daar gewonnen, ja, op formidabele wijze.
De sprint was voor mij niet zo belangrijk, omdat ik een week voordien had gewonnen in de Ronde van Vlaanderen. En ik wilde werken voor Roger de Vlaming, om hem Parijs-Roubaix te doen winnen. Ik heb daarvoor veel werk verricht. En op de piste zelf moest Rogier de Vlaming het zelf doen, omdat ik geen echte sprinter ben. En ik heb dus niet meer deelgenomen aan de sprint. Henny Kuiper, Henny Kuiper. J'ai travaillé pour Rogier de Vlaming dans cette Paris-Roubaix. Parce que une semaine avant, j'ai gagné le Tour de Vlaandre. Et Rogier a travaillé beaucoup pour moi parce que nous sommes dans la même équipe. Travailler pour Rogier, essayer pour lui, pour gagner Paris-Roubaix pour la cinquième fois, je pense. Hein? Ouais.
Regardez comme il contrôle bien Hino. Il a laissé la corde où s'engouffre de Meyer, avec Moser qui se met dans la route de Meyer.
J'écarte un petit peu de la corde, de manière à ce qu'il y ait un coureur qui fasse l'erreur d'attaquer en dessous. Et quand ce coureur arrive, moi je referme. Et effectivement, il y a un coureur qui a fait l'erreur d'essayer d'attaquer en dessous, et qui en a entraîné un deuxième qui était très fort ce jour-là aussi. Le premier, c'est de Meyer qui attaque un peu en dessous. Bon, moi je le bloque, mais lui il avait dans sa roue Moser. Si bien que Moser, se retrouvant derrière en troisième position, se retrouve bloqué, est obligé de faire tout le tour pour revenir au-dessus. Donc au-dessus de moi en premier, de Vlaming en deuxième, et lui se retrouve en troisième. Et le classement, il est resté comme ça jusqu'à l'arrivée.
Maintenant, de Meyer rétrograde, il a porté son effort un peu trop tôt. Van Calster essaye avec Moser de se porter à la hauteur du trio tête, ne réussit pas. Hino, de Vlaming, Moser. Moser est déjà battu.
Moser, Francesco. È stato uno sprint un po', si può dire anche strano.
Un sprint un peu, l'on peut dire, étrange.
Per ultimo.
Moi, je suis entré dans la piste le dernier. Hino était en tête et nous avons fait le premier tour assez régulièrement. Ensuite, j'ai essayé de passer devant. J'ai trouvé une ouverture entre Hino et De Meyer, mais ensuite je suis resté quelque peu enfermé dans la ligne droite opposée et j'ai dû revenir en arrière, remonter de nouveau dans le virage, et cette manœuvre, je pense, a compromis ma victoire.
Il y a Hino, de Vlaming qui s'est porté dans sa roue.
De sprint is begonnen dus met Bernard Hino die van ver op kop begonnen is. Ik dacht van zeker te winnen en Bernard Hino is op kop gebleven en kon niet meer passeren.
Roger de Vlaming.
Hino, il est trop fort. Je peux passer, mais c'est pas possible de passer. La dernière 200 mètres. Je suis plus fort que Hino, mais après une course comme ça, 260 km, c'est pas possible de passer.
Hino, toujours Hino.
Il y a un trou et au moment, on a l'impression qu'au moment où de Vlaming fait son effort, il a dû pousser un « Oh !» Vous savez qu'a entendu Hino.
Sur une piste en ciment qui est très lisse, quand le coureur commence à se lever sur le vélo, le bruit des boyaux n'est pas tout à fait le même. À partir du moment où on se met debout sur les pédales, c'est qu'on demande plus de puissance. Donc le boyau à l'arrière accroche plus et il fait plus de bruit. Il faut anticiper presque. Et au moment où on entend vraiment ce bruit-là, il faut lancer avant lui. Et là, il est battu.
Et Hino en a profité avec un petit temps de retard pour porter le sien.
Hino devant de Vlaming, Hino, Hino gagne, 25 ans après Hino Robert, victoire de Bernard Hino.
Puis 100 mètres de sprint sur le ciment. Et Hino entre dans la légende.
C'est quoi derrière, nom de Dieu, merde alors. Oh, faut qu'il respire, non.
Ouf, vous avez mes chaussons.
Bernard,
comme vous avez vu au début, deux premiers hommes, je vous ai dit, je suis marqué par la poisse.
Oui, mais quand on les a fait un bonjour, on réussit après.
Vous me sentez, vous êtes dans un jour exceptionnel. Qu'est-ce que tu viens faire là ?
Dans les champs, ceux qui n'avaient pas eu le temps de gagner Roubaix explosèrent de joie au moment où les ondes répercutèrent le flash.
Kleber! Kleber! Oh là là!
Marchez doucement pour les photographes.
Il paraît qu'un monde a pris une autre, il a mis sur l'épaule.
Ouais, je suis passé derrière, hop là. Oh, il y a un moment, il y avait 5-6 balles. Là où ils sont partis, déjà, les deux. Ah
ouais. Doucement.
Moi, j'ai passé derrière, mais j'ai perdu du temps.
Marche doucement. Marche doucement.
Où tu es touché, Bernard?
À la cuisse droite. Cuisse droite.
Cuisse droite.
Gauche. Et au coude.
Cuisse droite. Cuisse droite aussi. Cuisse droite. Attention, j'ai les derniers dans le
bain. Il reconnaît ce son de notre voix. Je l'ai appelé, il a levé le nez et tout de suite, c'est lui qui vient s'arrêter sur nous.
L'espace d'un instant, l'enfer du Nord avait pris des allures de paradis. Philippe Ramey.
Atlas News. Quotidien flamand de Bruxelles. Wilfried Merth.
Les jours pareils, Bernard Hinault se sent bien dans sa peau et tout lui sourit. Après avoir répondu aux mêmes questions durant une demi-heure, des journalistes de la radio et de la télévision, un membre du comité d'organisation locale lui demande s'il veut bien effectuer un tour d'honneur.
Wereldkampioen klopt de Vlaming na een onvoorstelbare spurt.
J'ai donc écrit qu'on était de retour de l'enfer, qui, ce jour-là, était vraiment très éprouvant pour les coureurs.
Robert Janssen,
nous sommes de retour, surtout avec un champion du monde, un vrai champion du monde, ça veut dire l'homme qui montre son maillot de champion dans la course et aussi sur le podium.
Yvon, Maurice et les autres, et Alexandre. Ou la victoire de Bernard Hinault dans Paris-Roubaix 81.
Il campione del mondo matatore sul pavé dell'inferno del nord.
Par Claude Giovannitti, Yann Parantoen.
Rino Negri. Entré en tête sur la piste en ciment, le formidable Breton a tenu la corde en volant littéralement sur les derniers 200 mètres en 13 secondes 2 centièmes. Ni de Vlaminck ni Moser, qui le suivaient à la trace, n'ont réussi à le mettre.
Bernard Hinault à la manière de Bernard Hinault.
L'enfer du Nord est resté fidèle à son image destructrice. La malchance a distribué aveuglément ses coups, n'épargnant personne, éliminant froidement, inconsciemment, petits et grands, sans discernement aucun.
La dernière heure, les sports. Bruxelles.
Joël Godard.
Philippe Bouvet.
Le Parisien libéré. Hinault, pour moi, c'est comme le championnat du monde.
On y va. Roubaix. Un dernier détail pour dire qu'une victoire, un Paris-Roubaix surtout, ça ne tient qu'à un fil. Bernard est en train de satisfaire au contrôle antidopage. Son vélo est là, posé contre la caravane du médecin. Nous pensons sur son boyau arrière et un petit point blanc vient de nous attirer. La chambre à air. C'est la chambre à air qui apparaît. Au bout d'un instant, Bernard sort de la caravane. Avec l'index, on lui montre le petit trou. Alors, avec l'ongle, il s'amuse à sortir la chambre à air. Il appuie entre les deux doigts. Pan, ça y est, rigole-t-il, le boyau est mort.
J'ai pas eu de mal à le faire éclater. Je crois qu'il est ouvert au moins sur un centimètre. Mais il n'est pas dit que ce soit vraiment sur la piste. Parce que, entre le podium protocolaire et puis l'endroit où on doit aller au contrôle médical, il y a 50-60 mètres et c'est dans la pelouse. Ça peut très bien que je sois passé sur une grille de verre, et c'est cette grille de verre qui m'a ouvert le boyau. Mais je l'ai pris avec les doigts et j'ai enlevé la chambre à air comme ça, donc ça tient à très peu de choses.
Étape.
Près d'un portrait. Fragment d'une émission en chantier consacrée au portrait sonore de Bernard Hinault. Paris, rue Ordener.
Le portrait d'Hinault, le trait.
Voilà. Oui, par exemple. Est-ce que j'ai un bon héros? Je vais faire une espèce de petite chose quand même. Hein. Là, vous n'entendez rien, de toute façon.
Si, si.
Si? Caricaturiste du journal L'Équipe. Et je continue avec ma plume, moi, avec la...
Comme vous voulez, je...
Attendez. Artiste peintre également. C'est aussi bien avec le crayon, non?
Le crayon passe très bien.
Passe bien?
Très bien.
Bon. Il a un front dégagé, des arcades plutôt proéminentes, avec des sourcils très bien marqués. Il a l'œil qui est clair mais profond à la fois. Je pense qu'il doit avoir l'œil marron, si je ne m'abuse. Marron, un peu vert peut-être. C'est peut-être le côté breton, là, peut-être qui est l'atavisme breton qui ressort dans la couleur de ses yeux, qui sont un mélange un peu de mer et de terre, si vous voulez, en effet, parce que c'est un peu marron et un peu vert en même temps. Hein. Alors les pommettes, évidemment, ça... que j'exagère peut-être, d'ailleurs. Enfin, qu'ils sont bien là, hein. Il n'y a pas de doute, qui marque bien le visage. Un nez, un joli nez que je fais peut-être un peu pointu, mais enfin qui est un nez quand même bien, bien marqué. Puis alors, c'est le bas du visage, extrêmement volontaire, et les mâchoires... les mâchoires puissantes. Le menton très très bien dessiné. C'est une belle tête, quoi, en définitive.
Donc ça, c'est le portrait d'Hinault, disons là.
Disons, c'est le portrait rapidement brossé de notre ami Hinault.
ACR, Atelier de création radiophonique. Yvon, Maurice et les autres. Et Alexandre. Ou La victoire de Bernard Hinault dans Paris-Roubaix 81. Par Yann Parentoen, Claude Giovannetti. Étape. Trait d'un portrait. Fragment d'une émission en chantier consacrée au portrait sonore de Bernard Hinault.
Cet atelier de création radiophonique a été diffusé le 11 juillet 1982 sur France Culture.